auditeurs de Radio Béton, il est 15h. Vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'Entraide et Solidarité. Alors, on se retrouve chaque mardi, maintenant notre horaire a changé, donc chaque premier mardi du mois, de 15h à 16h, parce que Radio Béton propose chaque mardi après-midi un sujet sur des questions sociétales, et donc le premier mardi du mois, Entraide et Solidarité donnera la parole à des acteurs de sujets qui l'animent. Donc Entraide et Solidarité, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une association tourangelle qui s'appelait Entraide ouvrière jusqu'à l'année dernière encore et qui a pour mission de venir en aide aux personnes qui sont les plus démunies sur l'Indre-et-Loire. Donc ça veut dire accueil au numéro 115, trouver des possibilités d'abri pour les personnes qui sont dehors. Ça veut dire soigner, ça veut dire former, insérer par le travail. Pour animer notre émission, donc nous sommes deux. Donc moi, je m'appelle Jackie Rejon, je suis adhérente de l'association et je suis accompagnée de Nathalie Dréano, qui est directrice adjointe et qui est responsable du centre de formation. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Il y a également Thierry Guérard qui est avec nous. Alors c'est lui qui va nous piloter au cours de l'émission et puis nous timer. Donc Thierry Guérard est responsable du pôle social et médical de l'association. Donc nos émissions ont pour objectif de profiter de l'espace de parole qui nous est donné par Radio Béton pour contribuer à la lutte contre les exclusions en donnant la parole aux personnes qui sont vraiment proches du terrain, je dirais, et proches des personnes des gens qui travaillent vraiment sur les sujets. Aujourd'hui, notre émission, la lutte contre les violences conjugales. Nathalie.
Donc, aujourd'hui, en France, en 2016, ce sont les derniers chiffres que nous avons eus, 123 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit environ une tous les trois jours. Il y a violence conjugale dès lors qu'un des conjoints exerce une violence sur l'autre, et quel que soit le statut de la conjugalité, mariage, union libre, Pâques, concubinage. Souvent, on réduit la violence à la violence conjugale physique, aux coups et aux blessures. En réalité, il existe de nombreux types de violences conjugales. Psychologique, harcèlement moral, insultes, menaces, physiques, sexuelles. Les hommes n'ont pas le monopole de la violence conjugale. Chaque année, en France, 80 000 hommes souffrent de violences conjugales. Pourtant, on n'en parle pas. Et hélas, aujourd'hui, on ne parlera pas non plus des hommes. On va plutôt s'intéresser aux femmes. Nous allons échanger sur différents points. Nous allons d'abord parler des victimes et puis ensuite des auteurs. Pour ce faire, nous avons un ensemble d'invités. Nous allons faire un tour de table. Nous allons commencer par vous présenter.
Bonjour, alors je suis Cécile Bardet, directrice à l'ACGET 37, qui est l'association de contrôle judiciaire et d'enquête de Tours. On intervient principalement pour deux juridictions, Tours et Blois, principalement sur des missions pénales, et on a aussi quelques mesures au civil.
Merci Cécile. Véronique.
Bonjour, donc Véronique Livera, je suis responsable du secteur santé à l'Entraide des Solidarités et je gère en particulier le centre thérapeutique Atoba qui est le centre spécialisé pour les auteurs de violences conjugales.
Merci Véronique.
Bonjour, David Girard, je suis responsable d'un centre d'hébergement qui accueille les femmes victimes de violences sur Tours. Voilà.
Merci.
Bonjour, je suis Julie Bonhomé, je suis psychologue clinicienne au sein du centre thérapeutique Atoba, au sein duquel j'anime avec ma collègue des groupes de parole thérapeutiques auprès des auteurs de violences conjugales, mais également des suivis thérapeutiques individuels de ces mêmes auteurs de violences.
Merci Julie.
Oui, bonjour, Richard Caltier, je suis délégué du procureur de la République, dont je représente aujourd'hui le parquet, tout simplement le procureur de la République en règle générale.
Merci Richard. Alors, Nathalie nous a donné un chiffre tout à l'heure. Donc, chaque année, entre 100 et 200 personnes décèdent des suites directes de violences conjugales. Entre 10 et 15 enfants tous les ans. Ça représente en moyenne 60 000 violences non mortelles déclarées, sachant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas déclarées. Par peur de représailles ou autre. Donc, on pourrait déjà se poser une première question qui serait à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire que dans son foyer on vit des choses qui ne sont pas normales ? Julie, par exemple.
Alors moi, je commencerais par dire que un des premiers signes, c'est la souffrance. La souffrance dans la conjugalité. Le fait de pouvoir aussi être de plus en plus isolé, isolé socialement, isolé de sa famille. Ça, c'est un des premiers signes d'alerte aussi, hein, qui peut alerter les personnes qui ont l'impression d'être victimes, en tout cas de violence conjugale.
Des personnes qui sont isolées, c'est-à-dire qui ne voient plus leurs amis.
Qui ne voient plus leurs amis, qui n'ont plus de travail, qui ont moins de contacts familiaux, qui sortent moins, qui ont moins en fait de possibilités de pouvoir être ouverts sur l'extérieur et notamment pouvoir peut-être parler aussi de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur conjugalité.
Elles s'isolent ou on les isole ?
Ça peut être à la fois les deux, c'est-à-dire que il y a la notion d'emprise qui va en rentrer en compte. Dans l'emprise psychologique, la victime est culpabilisée de par de nombre de violences, quelles qu'elles soient. Et quand on est culpabilisé, on n'est pas forcément très ouvert sur l'extérieur. En tout cas, on se renferme sur soi. Et par ailleurs, les auteurs de violences utilisent de nombreuses techniques, à la fois de manipulation psychologique, mais aussi par l'utilisation des violences, des restrictions sur les libertés de la personne, sur le fait de ne pas voir certains amis, de ne pas travailler, de ne pas utiliser parfois sa carte bancaire, etc., etc. Ce qui fait que la personne va s'isoler de plus en plus et ne va pas avoir accès à de l'aide, tout simplement.
C'est une privation de ressources aussi, peut-être ?
Ça peut être une privation de ressources. Dans la violence conjugale, on peut parler de différents types de violences. Nous avons la violence physique, qui correspond aux coups qui peuvent être reçus, mais qui peut correspondre aussi à des intimidations par des bris d'objets. Vous avez aussi la violence verbale, donc tout ce qui est autour d'insultes, qui peuvent être proférées à l'encontre de la personne, des violences sexuelles, comme des viols ou des agressions, des violences psychologiques qui sont des formes d'humiliation pour abaisser la personne et, devant public ou dans la sphère privée. Et vous avez aussi des violences économiques qui peuvent consister effectivement à réquisitionner la carte bancaire, le chéquier de la personne, de l'empêcher de travailler, l'empêcher d'être tout simplement autonome.
Il y a tout ce qui est violence administrative avec les titres de séjour aussi qui sont pas souvent cités mais qui sont une pression énorme pour les femmes étrangères et qui ont besoin de leur titre de séjour.
Ces différentes violences, c'est vrai qu'on a souvent plus la violence physique. C'est quoi ? On commence par du psychologique, c'est crescendo ou c'est un peu tout en même temps ?
Ce qui est observé sur Atoba de manière générale chez les auteurs que l'on accueille, c'est que ce qui fait que les auteurs sous main de justice viennent jusqu'à Atoba, c'est suite à des faits de violence physique, donc avec des coups, avec des marques, de manière générale. Cependant, dans les entretiens que l'on peut faire avec ma collègue et lors des évaluations psychologiques de ces auteurs, on s'aperçoit que dans presque tous les cas, il y a toujours eu des violences psychologiques dans les prémices de la relation et que les violences psychologiques sont déjà très ancrées dans la relation, parfois des années avant qu'il y ait une violence physique, une première violence physique en tout cas.
Est-ce que ces personnes qui sont victimes ont un profil spécifique ? Est-ce qu'il y a des points communs entre toutes ? David ?
C'est peut-être difficile d'avoir un point commun si ce n'est des personnes qui sont à un moment donné dépendantes de l'auteur de violence. Dépendantes, on l'a dit, pour des raisons administratives, des fois tout simplement. On peut avoir des personnes qui ont été malmenées, qui ont été rabaissées, mais qui n'en faisaient pas forcément cas. Et lorsque il y a eu le changement de pays, l'époux a pu prendre les papiers, les violences physiques sont arrivées de façon plus importante pour la personne. Après, je dirais c'est difficile de cerner un profil. On a pu accueillir des personnes de tous horizons, de tout niveau sociaux. Voilà. Après, nous rencontrons des personnes qui, à un moment donné de leur vie, au-delà de ces violences, n'ont pas non plus de ressources, de réseaux amicaux ou familiaux qui peuvent les accueillir à ce moment-là.
Ouais, c'est lié à l'isolement dont Julie parlait tout à l'heure, sûrement.
Oui, c'est ça. C'est de toute façon, c'est un cercle vicieux, une emprise qui se met en place petit à petit en fermant les relations, en fermant limitant le réseau et les personnes vers lesquelles les familles victimes de violences peuvent se tourner. Donc ça se met en place petit à petit et puis ça se renforce au cours du temps. Mais il y a toujours cet isolement et cette emprise pour que ce soit le seul interlocuteur et qu'il ait que l'auteur de violence ait la main mise justement sur la victime. Quoi.
Pour rebondir sur ce que disait Julie tout à l'heure, on voit des violences psychologiques, donc ça peut durer des années. Sur les profils des personnes que vous rencontrez, c'est combien de temps ça peut durer, jusqu'à quel point on peut tenir, entre guillemets, oui.
Déjà, ce qu'il faut peut-être définir, c'est qu'est-ce que la violence. Et en fonction, les enquêteurs qui reçoivent les gens, les personnes victimes de violence, si vous posez la question à chacun, chacune, qu'est-ce que la violence, vous n'avez pas la même réponse. Donc déjà, c'est déjà très très compliqué pour amener la personne à définir quand est-ce qu'elle est victime de violence. Ça, c'est quelque chose de très 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 important, à mon avis.
Des personnes...
Et juste, je vais reprendre un tout petit peu ce que vous avez dit avant, en disant que c'était... il ne faut pas oublier que même quand qu'on a vécu avec quelqu'un, qu'on est divorcé ou que le pacte s'est rompu, au niveau pénal, c'est toujours une circonstance aggravante. Vous êtes divorcé depuis 10 ans, vous êtes séparé depuis 10 ans, mais vous avez une vie commune qui est bien établie. On a toujours cette circonstance aggravante au niveau de l'infraction. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un article du Code pénal qui prévoit que toute personne qui a vécu, même si elle ne... C'est une circonstance aggravante. Hein.
Alors, excusez-moi, mais...
Moi, je ne vous suis pas, là.
Oui, circonstance aggravante à quoi ?
Circonstance aggravante. Le code pénal est simple, vous avez des textes, la violence est réprimée en fonction de différents critères, vous avez différentes infractions, contre-mention, délit au crime. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du code pénal, il y a des circonstances aggravantes. Je vais vous en prendre une. Vous êtes victime, Madame Brejon, vous êtes victime de violence, vous êtes... citoyenne lambda, le code pénal va vous viser une personne lambda. Un fonctionnaire de police qui va subir les mêmes violences, sa qualité de fonctionnaire de police, de gendarme, de représentant d'une association X ou Y, la SNCF, le fil bleu, enfin Keolis, ça sera une circonstance aggravante. Et la circonstance aggravante d'avoir été le conjoint, alors d'être le conjoint ou d'avoir été le conjoint, ça fait partie des circonstances aggravantes du code pénal au niveau des violences. Vous en avez 15 circonstances aggravantes.
Tu fais référence à la loi du 4 avril 2006 qui parle justement des ex-conjoints, des ex... c'est ça en fait. Et c'est ce qui avait entraîné la création en fait de la TOBA, cette loi-là. Où justement, dans les violences conjugales, on ne parle pas simplement du couple actuel, mais du couple qu'il a été. À un moment, en fait. Donc, à partir du moment où les deux personnes, il y a violence, même si ce couple est fini, c'est toujours de la violence conjugale.
Est-ce que, Véronique, tu peux nous dire ce que c'est la TOBA ?
La TOBA, c'est le centre thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales. Il a été créé il y a une dizaine d'années, en fait. Hein, et c'était suite au fait qu'on recevait énormément de femmes victimes de violences conjugales, que ces femmes, on les orientait dans le réseau d'aide qui existait et qui existe toujours, mais où on se disait que si on n'aide pas aussi les hommes à changer, on ne changera pas ce problème, on ne réglera pas le problème des violences conjugales, où il y a bien différents acteurs en jeu. Il y a la femme, il y a l'homme, et puis on peut même parler des enfants aussi, qui n'ont pas encore été cités. Hein, mais voilà, il y a plusieurs personnes dans cette problématique-là, et il nous semblait important d'intervenir aussi auprès des auteurs pour faire évoluer leur comportement, parce que quand vous disiez combien de temps ça peut durer, mais ça peut durer éternellement si on n'intervient pas. Il y a pas, il y a un fonctionnement, on va dire, intérieur, psychologique, qui est ancré depuis longtemps, qui s'est renforcé avec plein de choses. Et si on n'intervient pas à ce niveau-là, quel que soit le couple qui se créera, même si se défait, qu'il y en a un nouveau qui se crée, on sera toujours dans ce phénomène-là. Oui. Voilà. Donc il faut à tout prix intervenir auprès des auteurs. Et en intervenant auprès des auteurs, on aide les femmes.
Oui, voilà,
l'objectif, c'est bien d'intervenir pour garantir une intégrité de ces femmes. Donc quand on a créé la TOBA, c'était pour venir en aide aux femmes. Voilà, on gérait un centre d'accueil où on voyait tous les jours arriver des femmes dans des situations les plus démunies possibles, que ce soit administrativement, financièrement, matériellement, psychologiquement, elles étaient détruites. Parce qu'on parlait des violences physiques, mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important. Et elle le dit, c'est pas ce qui fait plus mal. C'est peut-être ce qui se voit, mais c'est pas ce qui est le plus dur, le plus marquant. Voilà. Et donc, c'est en ayant vu toutes ces femmes arriver dans des situations difficiles qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, on a dit, ben, on va intervenir auprès des hommes. Et c'est pour ça qu'on a créé la Toba il y a plus de 10 ans.
Oui, sûrement. On s'interrompt une toute petite minute pour une première pause musicale. Donc vous êtes sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'entraide et solidarité. Nous parlons au sujet de violences conjugales et donc nous étions en train de parler des conditions notamment des femmes victimes. Donc pour poursuivre, donc David est responsable d'un centre d'hébergement qui accueille des femmes, des enfants aussi.
Oui, les deux, effectivement. Pour reprendre, donner quelques chiffres, l'an dernier, donc il y a huit appartements dédiés à l'urgence. Sur ces appartements, nous avons accueilli l'an dernier 73 personnes. Et cette année, au mois d'août, le décompte était de 74. Sur ces 74 personnes, il y avait 40 enfants. Donc, effectivement, la moitié sont des enfants.
Est-ce que vous recevez aussi des messieurs ? On a rapidement dit tout à l'heure que les messieurs aussi étaient susceptibles d'être victimes de violences. Mais est-ce que ça arrive ?
Ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare.
Et alors, quand elles arrivent, ça se passe comment ? D'un point de vue très pratique.
Alors, les personnes sont orientées par le 115. Donc, nous, dès qu'un appartement est libre, nous informons le 115. Et le 115 peut nous orienter dans la journée une personne qui a contacté le 115.
Donc, le 115, c'est le numéro de l'urgence sociale. C'est un numéro qui trouve des solutions d'hébergement aux personnes qui ne savent pas où dormir ce soir.
C'est ça. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un accueil d'urgence. Donc certaines personnes ont pu être accueillies quelques nuits le temps que nous ayons un appartement disponible, quelques nuits à l'hôtel ou autre pour essayer en tout cas qu'elles ne soient plus victimes et sous les coups de leur compagnon.
Et vous leur trouvez toujours une solution ?
Alors les services du 115, oui, mettent en place des réponses autant que possible et je pense qu'il y a l'an dernier, peut-être une nuit où une personne n'a pas pu avoir de solution, mais c'était extrêmement exceptionnel.
Ouais. Ouais, ce sont des femmes qui sont sorties de façon très urgente de chez elles, enfin précipitamment.
Oui. Il peut arriver que des personnes préparent leur départ avec le CIDFF ou donc le Centre d'information en droit de la femme et de la famille la DAVIP, France Victime, maintenant. Avec des juristes, elles ont parfois pu préparer leur départ.
C'est quoi préparer le départ ?
Préparer le départ, c'est mettre de côté les papiers, c'est préparer un sac, mettre ces affaires-là en sécurité ou les déposer chez une amie, faire des copies. Avoir les numéros de compte en banque, voilà, tout ce qui est administratif, puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'emprise est souvent à ce niveau-là, et il faut qu'elles puissent, ouvrir leurs droits à leur nom propre.
C'est une majorité où la plupart des départs sont vraiment urgents et...
Non, les départs se font en urgence et ponctuellement les personnes ont pu le préparer. Il est arrivé que nous ayons des personnes qui viennent pour la deuxième fois, troisième fois. Des fois, des personnes sont accueillies et puis repartent au bout de deux jours, une semaine, 15 jours parce que le conjoint fait pression, pareil pour des raisons administratives, par rapport aux enfants qui sont aussi des moyens de pression.
Parce que c'est un cheminement psychologique, c'est sûrement que de se défaire de l'emprise dont on
parlait
tout à l'heure.
C'est ça, ouais. Cette emprise est extrêmement importante et le fait d'être seul renforce ce sentiment d'être incapable de pouvoir se prendre en charge et c'est ce qui est renvoyé régulièrement par le...
Et alors, justement, pour se prendre en charge et pour se reconstruire, est-ce que vous avez des aides à votre disposition ? Qu'est-ce qui leur est proposé ?
Alors, il y a déjà un travail très, très important de l'équipe sociale. Donc, il y a 8 personnes qui interviennent sur la structure au niveau de l'équipe sociale. Des veilleurs qui sont présents toute la nuit. Et dans un premier temps, c'est vraiment un travail d'accueil, de réconfort de la personne, d'écoute. et une grande disponibilité pour, des fois, il faut pouvoir accompagner la personne pour faire les premières démarches, oser ressortir lorsqu'il y a eu des violences graves, violences physiques importantes, et puis accompagner la personne aussi pour rouvrir ses droits, avoir des papiers, refaire faire ses papiers quand elle n'a pas pu partir avec ses papiers. Donc, et puis l'accompagner petit à petit pour qu'elle puisse s'autoriser à sortir seule, s'autoriser à faire des démarches, se rendre compte qu'elle est toujours capable de faire des démarches. Donc pour ce faire, nous avons également des temps de permanence avec des psychologues pour enfants et pour adultes avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, le CIDFF. Ou alors à l'IML également, des psychologues peuvent accueillir. Donc l'Institut médico-légal, donc, qui est aussi un interlocuteur privilégié, puisque rapidement, c'est un type d'accompagnement et d'urgence assez spécifique, puisque rapidement, nous avons affaire à mettre en relation avec la justice, et préparer un dossier pour la personne. Donc il faut qu'il y ait des preuves, des certificats médicaux établis par l'IML de préférence, pour que la personne puisse ensuite monter un dossier si elle souhaite porter plainte.
Et donc vous recevez aussi des enfants et leur place dans tout ça, aux enfants, est-ce qu'ils ont un accompagnement qui leur est proposé aussi? Les enfants sont avec leur maman, vous les hébergez ensemble?
Oui. Alors il y a les rencontres possibles, la permanence avec une psychologue pour enfants, donc qui intervient deux fois par semaine sur la structure. Donc assez rapidement, les enfants ont possibilité de rencontrer la psychologue. On travaille avec eux. Après, lorsqu'il y a d'autres problématiques avec la psychologue, on travaille pour orienter vers des services éducatifs adaptés. Toute la difficulté, c'est aussi de protéger les enfants, mais de savoir que les deux parents ont des droits, même si il y a un auteur de violence, il est toujours père de ses enfants. C'est des fois toute la difficulté de pouvoir continuer à protéger les femmes, alors que il y a les enfants qui ont toujours le droit de voir leur père, ou le père qui a toujours le droit d'être en contact avec les enfants.
Les collègues qui ont l'habitude de travailler avec les victimes ont l'habitude de dire qu'il faut en général à certaines victimes jusqu'à 7 allers-retours entre le domicile et l'extérieur pour pouvoir partir définitivement. C'est un processus qui est long, qui est difficile. Demander de l'aide pour les victimes, c'est très compliqué. On a parlé de leur situation d'isolement tout à l'heure et de l'emprise et des conséquences que ça peut avoir sur elles. Ce qui est extrêmement important à la fois pour les victimes, mais également dans le travail que l'on propose à Atoba auprès des auteurs qui sont toujours en couple avec les victimes, c'est la mise en place d'un suivi psychologique pour les victimes et effectivement également pour les enfants, qu'on appelle aujourd'hui les enfants co-victimes de ces violences conjugales. C'est extrêmement important parce que tout à l'heure, avant la pause musicale, on parlait de comment détecter effectivement si on est dans une situation de violence conjugale et comment on fait aussi pour s'en sortir. Une des manières de travailler là-dessus, c'est le suivi psychologique, parce que c'est par ce biais qu'on va pouvoir prendre un petit peu de distance sur sa situation conjugale et pouvoir s'apercevoir au fur et à mesure de la prise en charge qu'il y a une situation de violence, notamment une situation de violence psychologique qui a peut-être parfois duré pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Donc c'est une première prise de conscience, au-delà des violences physiques qui ont pu avoir lieu et qui amènent la justice ou en tout cas une demande de soins auprès de l'auteur. Et ça, c'est un travail également que l'on fait auprès des auteurs en parallèle, quand ils sont sur Atoba, c'est-à-dire de prendre conscience de son propre comportement de violence, se responsabiliser face à la violence que l'on exerce sur l'autre, comprendre qu'il y a certes la violence physique, mais également la violence psychologique, la violence sexuelle, toutes les violences que l'on a citées tout à l'heure. Et ça, c'est un travail indispensable. On travaille sur Atoba en partenariat également avec les mêmes intervenants que David a cité tout à l'heure, le CIDFF, France Victimes, l'Institut médico-légal, avec les psychologues, puisque du coup, ce qu'on s'est aperçu sur Atoba avec les auteurs, c'est que la plupart des auteurs et des victimes veulent rester en couple, ou en tout cas sont toujours dans une conjugalité, Donc l'enjeu, c'est de pouvoir, en tout cas, autant faire que se peut, que l'auteur soit pris en charge de manière psychologique sur Atoba et que la victime puisse être en parallèle prise en charge dans un espace de parole qui lui est propre, dans l'une de ses associations, pour pouvoir travailler sur toutes ces questions de la violence, de l'emprise, comprendre ce que c'est que le cycle de la violence, parce qu'il y a différentes phases. Dans le cycle de la violence, il y a une phase de tension, une phase de crise, une phase de justification et une phase de lune de miel qui explique aussi que les victimes reviennent systématiquement auprès de l'auteur, parce que dans la lune de miel, tout est beau, tout est rose, il y a des belles promesses, on recommencera plus, il y a un jeu de séduction qui s'exerce et l'emprise en fait est toujours extrêmement présente. Donc c'est à l'aide de ces suivis et de l'aide de tous ces intervenants auprès des femmes, auprès des victimes, des enfants, mais également des auteurs, qu'on va pouvoir un petit peu décortiquer toutes ces situations complexes et que chacun puisse prendre conscience un petit peu de là où il en est et pouvoir ensuite initier des comportements de changement. À la fois l'auteur pour ne plus qu'il utilise ses comportements violents, à la fois pour que la victime elle puisse retrouver sa liberté, son autonomie et qu'elle puisse aussi penser à elle et à sa propre santé, que ce soit psychique ou physique.
On s'interrompt à nouveau 2 minutes pour une pause musicale. À tout de suite.
1 sur 2 moins qu'un chien. Éliminer les flèches et les indiens. Le bluff qui s'y est au visage blême. T'aimes le blabla, t'aimes. Paysage désolé qui circule dans nos veines. Oh chérie, tu charries plus d'oxygène. Et tu continues le...
I'm
vous êtes toujours à l'écoute de 93.6 sur l'émission qui traite des violences conjugales. Donc, on a avec nous aussi Cécile Bardet, qui est directrice de la CGET 37. La CGET, ce n'est pas qu'un grand syndicat. C'est aussi une association. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est une association socio-judiciaire. En ce qui concerne les auteurs de violences conjugales, on les prend en charge principalement en post-sentenciel, c'est-à-dire avant jugement, dans des mesures de contrôle judiciaire socio-éducatif. C'est-à-dire que le juge nous missionne à travers une ordonnance où il nous demande d'accompagner cet auteur de violences conjugales dans sa dimension socio-judiciaire. Et dans cette ordonnance, il y a également des interdictions et des obligations. Donc dans les interdictions, ça peut être bien sûr de rentrer en contact avec la victime. Donc à nous de nous assurer que effectivement l'auteur respecte cette interdiction. Et puis dans les obligations, la plupart du temps, c'est des obligations de soins, notamment justement pour ces justiciables-là. Nous, au-delà de l'importance de respecter une obligation de soins au sens judiciaire, ça nous semble essentiel dans l'accompagnement de cette personne, qui puisse réfléchir à ses actes et d'évoluer par rapport à ça. Donc nous, on travaille beaucoup en partenariat avec la TOBA dans ce cadre-là. Le but, c'est qu'on travaille aussi ensemble sur les mécanismes d'emprise qui ont été décrits brièvement par Julie tout à l'heure, sur l'image de la femme aussi que peuvent avoir ces auteurs, la question également du consentement, notamment pour des faits de viol conjugal. Travailler ensemble sur toutes ces notions. D'avoir aussi des réunions ensemble pour pouvoir justement avoir une prise en charge globale de l'auteur. Et puis d'éviter aussi ce qui nous permet aussi d'appréhender la personne dans sa globalité, dans son quotidien, et d'éviter aussi les mécanismes de répétition et puis de récidive, parce que c'est aussi l'optique de la mesure judiciaire, justement.
Ça se passe comment ? C'est des entretiens ? C'est des réunions collectives ?
Tout à fait. Alors, ce sont des entretiens individuels menés par des intervenants sociaux judiciaires qui sont salariés de l'association, qui reçoivent à des fréquences diverses. Alors, les auteurs, soit c'est indiqué sur l'ordonnance, soit c'est à notre appréciation. La plupart du temps, dans un début de contrôle judiciaire, ça peut être une fois par semaine. Ça peut être ensuite une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Tout dépend après. On a aussi différentes sortes de contrôles judiciaires. Donc on a des contrôles judiciaires courts qui là vont durer quelques semaines. Et puis des contrôles judiciaires plus longs qui peuvent aller jusqu'à 5-6 ans. Donc là, c'est pas du tout le même travail, effectivement. Donc il faut aussi s'adapter aux contraintes pénales.
Tout à l'heure, vous disiez avant le jugement.
Oui, tout à fait. Un contrôle judiciaire, c'est toujours avant le jugement, en fait.
Donc un accompagnement 5-6 ans, ça s'explique comment ?
C'est pour des faits qui sont plus graves, qui nécessitent une instruction.
D'accord. Oui, c'est la réponse pénale. Déjà, il faut savoir que le parquet, de Tours en particulier, son but, c'est, d'une part, pour tous les parquets, c'est veiller à l'application de la loi. D'accord ? Donc on est tous d'accord que les violences conjugales sont interdites et sont punissables. Mais ce qu'il faut, surtout sur le 37, ce que cherche le parquet, c'est surtout éviter le renouvellement des faits, et tout en amenant à protéger les victimes. Ça, c'est le gros travail qui est effectué, et c'est bien pour ça qu'ici, on est tous présents, le SPIP, la TOBA, l'entraide ouvrière, et on pourrait rajouter France Victimes. Le but, c'est justement ça, la réitération ou la récidive. Je ne vais pas venir sur les définitions, mais c'est ça. Donc effectivement, il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place depuis quelques années. Et je pense que tu as fait référence aux ordonnances de protection, c'est ça ?
Au niveau du
juge d'affaires familiales. Oui. Bon, c'est de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc il y a des adaptations au fur et à mesure. La loi évolue au fur et à mesure des choses. On a des textes de loi se complètent, évoluent. Donc il faut que chacun s'adapte et chacun apprenne. Pour cette prise en charge à la fois des auteurs, ça peut être la sanction purement pénale, et, mais aussi les victimes. Et il est intéressant de savoir que le ATOBA, bah, c'est justement, c'est une réponse pénale qui est donnée, ce stage, qui peut être donné à différents niveaux, avant jugement, avant que le procureur de la République ait décidé d'envoyer devant une juridiction de jugement. Il peut prendre ses décisions sous une forme de mesure de rappel à la loi, classement sous condition, et ou après aussi, ça peut être dans la réponse pénale. Donc il y a différents niveaux de réponse.
Parce que tu parlais des stages, en fait, les stages sont une autre forme de prise en charge de l'ATOBA. On a parlé des prises en charge individuelles, on a parlé des prises en charge de groupes de parole. Le stage, c'est effectivement une orientation sur décision judiciaire d'auteurs de violences conjugales qui sont réunis pendant 2 jours, où intervient donc l'ATOBA, mais également la CEGET. Julie, tu peux peut-être décrire un peu le contenu, mais c'est vrai que c'est sur une décision judiciaire. C'est un peu comme les stages à points pour le permis. On va dire, voilà, c'est un moyen effectivement de rattraper les choses.
Non, j'aime tu pas les points. J'aime
t'aimes pas les points. Présente-toi à ta façon.
J'aime pas trop les points. les points, ça peut faire mal. Non, c'est surtout le parquet. Le parquet décide d'envoyer sur le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte des violences conjugales quand l'auteur, le mis en cause, est déjà à une forme d'autocritique et qu'il est déjà en accord pour y aller. Parce qu'autrement, s'il n'est pas d'accord, bien, vous le refoulez. À Thomas, vous le refoulez.
C'est plus compliqué, effectivement. Après, effectivement, sur ce stage, sur les 2 journées, il y a une partie théorique sur la première journée pour sensibiliser aux conséquences de la violence conjugale et comprendre aussi le circuit de la justice en lien avec les violences conjugales. Et une deuxième journée, on va dire, qui est plus... plus porté sur la situation conjugale actuelle la situation de l'ex-couple de la personne qui est des personnes qui sont en face de nous afin de cibler avec eux ce qui peut être changé déjà actuellement dans leur comportement. Ce qui est vraiment un condensé du travail que l'on fait sur ATOBA, notamment dans les groupes de parole. Mais voilà, là sur le groupe de parole, on est sur la durée.
Ouais, tu parlais de la notion de volontaire ou pas. Il faut être clair, on a des gens qui viennent sous main de justice, on a des gens qui viennent volontairement, ils sont volontaires plus ou moins, ils sont volontaires orientés, ils sont volontaires conseillés. Alors conseillés ça peut être par quelqu'un des forces de l'ordre, conseillés par un avocat, conseillés par un médecin ou conseillés par la conjointe. Si tu ne te fais pas soigner, je te quitte. Et ça marche très bien. La majorité des volontaires viennent orientés par leur propre conjointe sur lequel, effectivement, la conjointe a un pouvoir, malgré tout ce qu'elle subit, elle a ce pouvoir-là, surtout dans certaines phases. Je m'excuse, oui, mais... voilà, si tu ne fais pas cette démarche-là, je te quitte. Et là, effectivement, la majorité des volontaires, ils viennent volontaires orientés par leur conjoint.
Jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à il y a environ un an, sur ATOBA, on accueillait des auteurs qui étaient à 70% orientés par la justice pour répondre à leur obligation de soins, et environ 30% de personnes dites volontaires. Depuis environ un an, c'est vraiment des statistiques qui s'inversent, c'est-à-dire qu'on a majoritairement des personnes volontaires qui viennent nous contacter, et effectivement, comme tu viens de le dire, Véronique, c'est extrêmement important, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent peut-être également être victimes de violences au sein de leur couple, c'est que, du coup, les volontaires ne sont jamais spontanément totalement volontaires, il y a toujours la demande derrière de la conjointe qui est en souffrance, qui utilise ce moyen pour essayer de motiver le conjoint à changer. Ce qui est une vraie motivation pour certains auteurs qui viennent nous dire « voilà, moi je viens parce que madame m'a demandé de venir, c'est l'ultimatum, sinon elle part. Donc j'ai pris conscience par ce biais qu'il fallait que je change, donc je suis prêt à changer, je suis prêt à commencer ce travail. » Et ce qui est très intéressant, c'est que sur certains auteurs qui viennent de manière volontaire, il y a un réel travail et un réel investissement de ces personnes avec, en quelques mois ou quelques années, des changements de comportement assez importants et vraiment une prise de conscience très importante. Ce qui est plus difficile à faire émerger chez un public qui vient sous obligation de soins. Après, ça, c'est notre travail de psychologue de le travailler. Voilà, c'est vraiment deux publics assez différents.
Moi, j'irais encore plus loin que toi, parce que même chez les gens qui viennent sous main de justice, qui sont donc pas volontaires du tout, l'effet groupe fait que même s'ils arrivent en disant « de toute façon, je m'en fous, je parlerai pas », ou « de toute façon, je viens parce que j'ai pas le choix », l'effet miroir, quand effectivement quelqu'un en face va leur dire, quelqu'un qui est pas un professionnel, va leur dire « tu déconnes, et là, il faut que t'arrêtes, et là, bah si, attends, là, tu l'as bien connu dessus », enfin, voilà, le retour, l'écho de quelqu'un qui a le même parcours que lui, qui est aussi là sous main de justice, va être beaucoup plus important que les propos d'un professionnel, en fait.
Tout à fait.
Et on les voit évoluer, même si ils viennent pas en se disant « je vais changer ». Surtout pas, ils disent d'ailleurs « moi, je vais pas changer, puis j'en ai rien à faire. Je viens parce que j'ai pas le choix. » Et ben n'empêche que ça marche.
Il y a toujours un basculement au sein de ces groupes de parole. Nous, c'est notre support vraiment privilégié. Et au sein des groupes de parole, en fait, il y a environ 10 personnes. Et il y a toujours un mélange entre des personnes volontaires et des personnes qui sont là sous main de justice, qui sont là soit depuis très peu de temps, soit depuis des années. Il y a vraiment un mixage de tous les profils possibles. Et effectivement, même s'il y a des personnes très opposées aux soins ou vraiment dans le déni de leur difficulté et de la violence conjugale, il y a toujours un moment de basculement où effectivement le regard de l'autre et le travail à travers les supports que l'on propose au groupe de parole, mais aussi les conseils des patients entre eux, fait qu'il y a un basculement et que ça initie une démarche de changement.
C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas le sujet comme vous le connaissez, on a le sentiment que les personnes violentes sont violentes. Point, que c'est définitif. Alors là, c'est aussi quand même, je trouve, un message aussi d'espoir que vous dites là, parce que on se rend compte que oui, les choses peuvent changer et que ça peut bouger. Bon, on arrête encore pour une dernière pause musicale.
De cet enfant et de ses yeux qui lui mangent le visage. Te souviens-tu des deux dents devant, voler dans la nuit par toute une bande de souris? Te souviens-tu de cet enfant, de sa bonne pizzeria, de tout ce qu'il trouvait beau, de ses grimaces devant la glace, qu'on avait peur qu'il reste qu'éblot? Si les cloches sonnent, me souviens de rien, maman. Tu de cet enfant si petit mais déjà si chiant, un ange malin, petit diable hautain qui de toutes ses faces si ramenait toujours l'attention sur lui. Te souviens-tu de cet enfant, de notre amour si fort, nos joies, nos réconforts, nos milliers de pourquoi? Mon fils, te souviens-tu de toi? Me souviens de rien, maman. Plus j'avance et moins je me retourne. Mais tu sais, pour tout ça, j'ai pas le temps. Tout s'efface et la roue tourne. De cet enfant, quand son auréole s'allumait d'un sourire, dans la cour d'école, voyant sa mère venir, quand la tête entre deux mamelles, lui disait: maman, t'es la plus belle. Me souviens de rien, maman. Plus j'avance et moins je me retourne. Et tu sais, pour tout ça, j'ai pas le temps. Tout s'efface et la roue tourne. Me souviens de
Donc voilà, donc sur Radio Béton, on parle jusqu'à 16h de violence conjugale.
Il reste quelques minutes, hein, ça va passer bien vite maintenant, mais en tout cas, une question, on ne voulait pas passer outre, c'est est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, hein? Est-ce que si dans mon entourage quelqu'un est victime, je peux me rendre compte et qu'est-ce que je dois faire?
Ce que l'on disait tout à l'heure, effectivement, du dénigrement, des attitudes dans le couple où l'un des conjoints va rabaisser l'autre, va avoir des attitudes qui vont faire en sorte que l'autre aura moins confiance en elle. Ça peut être quelques signes. Alors après, il y a d'autres éléments à prendre en compte, mais voilà, une personne qui se coupe de tout son environnement habituel, petit à petit son mode de vie par rapport à la personne avec qui elle est et qui ne voit qu'à travers cette personne. Bon, ce sont quelques signes, voilà, peut-être d'autres.
Même si c'est fait sous la forme de l'humour, des fois, parce que quand on est en groupe, entre amis, on va se moquer, on va dire, de son conjoint. Mais voilà, derrière ces moqueries, il y a de l'humiliation et ça fait écho à d'autres choses qui sont dites dans l'intimité. Donc, il faut être attentif à ces petites phrases qui peuvent paraître anodines, mais qui sont souvent très importantes.
Moi, je dirais que ce qui est extrêmement important, qu'on soit amis de collègues ou professionnels, hein, qui reçoit quelqu'un ou qui est en contact avec quelqu'un qui peut-être subit des violences conjugales, c'est de toujours laisser la porte ouverte. Et de toujours aussi oser poser la question, parce que ça, parfois, personne n'ose le poser. Mais est-ce qu'en ce moment, tu n'es pas en train de subir quelque chose qui n'est pas normal? Est-ce que tu n'es pas en train de souffrir? Est-ce que tu as déjà subi des violences de la part de ton conjoint? Ça, c'est une question que les professionnels peuvent poser dès qu'il y a un doute. Mais même en tant qu'ami, en tant que proche, c'est une question que l'on peut poser. On s'aperçoit que parfois, quand on pose la question, les victimes se mettent à parler. Parce que du coup, c'est une question qui peut déclencher tout un tas de réponses, ou en tout cas des réactions qui peuvent aussi laisser penser qu'il se passe peut-être quelque chose qui ne peut pas être dit.
Ou ça, amener la personne à réfléchir après. Suivant la période du cycle de la violence où elle en est, ça peut être aussi une période où plus tard elle y repensera.
Tout à fait.
C'est jamais perdu, en tout cas, de lancer le débat auprès des personnes.
Et dans la situation donc d'isolement que l'on a décrite, ce qui est important quand on est le proche d'une personne qui pourrait être victime de violences conjugales, c'est de toujours garder le contact, d'un moyen ou d'un autre, que ce soit téléphonique, que ce soit réussir à continuer de se voir, même si ça peut être frustrant pour certaines personnes de se dire « mais je ne comprends pas, il y a ça qui se passe, elle me l'a dit, il est violent, elle ne veut pas partir ou elle est revenue avec lui », de ne surtout pas être dans le jugement, parce que ça va renforcer uniquement le sentiment de culpabilité de la victime, qui va encore plus se sentir isolée et qui risque de ne plus être en contact avec le proche. L'idée, c'est de pouvoir être assez neutre et de toujours garder ce lien et de pouvoir conseiller et aider aussi éventuellement à orienter aussi vers des soins, que ce soit vers un suivi thérapeutique, vers aussi les services sociaux, vers le CIDFF, vers France Victimes, mais également aussi si voilà, un de nos auditeurs s'aperçoit qu'il y a une personne qui est violente autour d'elle, de pouvoir aussi dire bah, « écoute, moi je pense que tu as une difficulté avec la violence, avec ta conjointe ou ton conjoint, sache qu'il existe des associations spécialisées, il y a Toba par exemple, et de pouvoir donner une adresse. Ça aussi, ça peut permettre à la personne soit de prendre note tout de suite de ce qui est proposé, soit d'y repenser un petit peu plus tard.
Et peut-être aussi de se dire, ce que j'ai compris tout à l'heure que vous disiez, c'est que c'est un cheminement psychologique qui est long, et que le fait de revenir avec son conjoint après un premier départ, c'est pas forcément un échec, mais ça fait partie du cheminement de la personne. Et que les structures qui travaillent sur ce sujet ne se découragent pas lorsque les personnes...
Ça fait partie du processus, donc on le travaille aussi en fait, que ce soit du côté des victimes ou des auteurs, c'est vraiment toutes ces étapes autour de l'emprise et du cycle de la violence sont toutes travaillées, elles sont identifiées, ce qui est aussi très intéressant parfois avec certains patients que l'on a sur Atobé depuis plusieurs années, c'est qu'eux-mêmes arrivent maintenant à identifier ces cycles-là, et parfois à leur envoyer en groupe, on parlait du groupe de parole tout à l'heure, à leur envoyer à certaines personnes qui sont nouvelles arrivantes sur le groupe en disant « toi tu es dans cette phase-là, attention, il va se passer ça ». Donc c'est extrêmement intéressant. Et dans les associations de victimes, dans les suivis thérapeutiques qui sont proposés, c'est aussi quelque chose qui est travaillé. Apprendre aux victimes de repérer dans quelle phase du cycle elles sont et de pouvoir mieux préparer le prochain départ.
Est-ce qu'il y a des associations qui aident à repérer? Parce que la façon dont tu l'as dit, Julie, ça semble facile. Si je prends mon cas, ça paraît compliqué de voir une collègue qu'on sent qui ne va pas bien, d'avoir peur des mauvais mots. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent, on a parlé de la Toba, on parle de l'entraide, on parle de plein de choses, mais qui peuvent former, qui peuvent nous aider, nous, à détecter des signes?
La CEGET, non, propose pas ce genre de...
Alors non, on ne fait pas ce genre de formation, mais il y a des formations
sur les violences
pour
conjugales.
Pour les professionnels, sur les violences conjugales, justement.
Qui est organisée par le CIDF,
voilà,
notamment.
Où participe Atoba et la CEGET.
C'est pas des formations qui sont ouvertes au grand public.
Non,
en tout
c'est
cas.
Réservé aux professionnels.
Après, je pense que chaque citoyen se doit d'être ouvert, il doit observer, être à l'écoute, libérer la parole, dire à des amis « je suis là ». Tu peux me parler. Enfin, je pense que c'est des phrases.
Ça paraît évident, mais c'est essentiel.
Voilà, c'est des phrases simples qui émanent pas de professionnels, mais qui effectivement permettent à la personne en face de savoir qu'elle est pas toute seule. Parce qu'on parlait de l'isolement. La solution aussi, c'est d'adresser cette personne vers les associations, les lieux culturelle, qu'elle fasse partie d'un groupe d'activités autres, d'aller marcher, d'aller faire ce qu'elle veut, mais d'être avec les autres. À partir du moment où elle sera avec les autres, elle sera moins isolée et donc elle aura aussi un autre regard sur ce qu'elle vit.
Oui, il y a aussi la délégation aux droits de la femme qui a associé aussi, qui a mis en lien tous les acteurs sur le département. Et donc, il y a des informations qui sont accessibles sur Internet en faisant une recherche, je crois que c'est sur le site de la préfecture de mémoire. Oui. Donc là, il y a des adresses aussi qui sont recensées, centralisées par la délégation aux droits de la femme aussi.
Oui, on ne voulait pas vous quitter non plus sans vous donner quelques numéros de téléphone. Donc on parle depuis tout à l'heure de la Toba. Donc pour les joindre, on peut les appeler directement. C'est le 02 47 27 28 01. On rappelle aussi le 115, qui est le numéro d'urgence sociale. Un numéro dont on n'a pas parlé, le 3919. Alors ça, ce n'est pas un numéro d'urgence, mais par contre, c'est un numéro auprès duquel on peut obtenir de l'aide.
Oui, c'est un numéro gratuit pour dédié aux femmes victimes de violences. Oui.
Et puis, le 25 novembre va avoir lieu la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a des manifestations qui sont prévues sur Tours?
Oui, en partie. Alors, ce sera plutôt le 30, du coup. Alors, le 25, si, le 25, il y a une initiation à la self-défense. Donc, avec différents enseignants de self-défense, ce sera dans un gymnase à La Riche, mais je crois qu'il n'y a plus de place. Mais le 30, en tout cas, il y a c'est au hall, là, il y a une manifestation plus importante.
C'est ça, oui. Il y a une grande journée au hall avec les différents acteurs, puisqu'on parlait de la délégation aux droits des femmes. Il y a un protocole qui réunit plus d'une cinquantaine d'acteurs, d'associations, de professionnels qui interviennent sur le département, qui seront donc présents au hall le vendredi 30 novembre de 10h à 19h. En continu, l'après-midi, il y aura donc il y a des stands qui sont tenus par les différents intervenants et l'après-midi, il y a des petits débats sur différents sujets.
Merci Véronique. Donc notre message aujourd'hui, c'était il n'est jamais trop tard pour changer. On peut faire changer les choses si on bouge. Notre prochain rendez-vous le mardi 4 décembre de 15h à 16h. Merci à tous.